L'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec participait à une conférence de presse pour sonner l'alarme la semaine dernière et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Rosanne Couture, qui en est la directrice générale. Bonjour Mme Couture.
Bonjour M. Beauregard.
Il y a eu effectivement une conférence de presse très récemment.
Oui, tout à fait.
À laquelle vous présidiez, si je peux dire, pour sonner l'alarme, parce que le transport adapté est en train de perdre des roues, là.
Oui, tout à fait. C'est sûr que pour bien comprendre l'importance de cette situation que vous évoquez, il faut se rappeler qu'au Québec, il y a environ 130 000 personnes handicapées qui sont admises à ces services. Leur situation de handicap ayant démontré, en vertu d'une politique gouvernementale sur l'admissibilité au transport adapté, qu'elle requiert vraiment ces services pour se déplacer et sans lesquels elle ne pourrait pas aller à l'école, ni au travail, à des activités de loisirs, comme toute autre personne. Alors, c'est toute son autonomie qui est dépendante de ces services et qui la rend encore plus vulnérable et qui lui font vivre un stress quotidien dans le fait de ne pas savoir si elle aura accès à un service de transport pour se déplacer. Alors, c'est encore plus vrai présentement.
C'est un service essentiel. C'est un droit d'avoir le droit de sortir de chez soi.
Tout à fait.
Et ce n'est pas que pour un rendez-vous médical. Il y a la vie sociale. Il y a la vie culturelle, les amis, la famille, surtout à la sortie de la pandémie. Tout le monde, inscrit ou non au transport adapté, peut comprendre ce besoin assez fondamental. Qu'est-ce qui ne va pas dans le transport adapté? Parce que ce n'est pas une situation qui n'est que dans une région. Nous avons eu ici à notre micro des gens de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la région de l'Amiante. Évidemment, chacun nous parlait de la problématique de son coin de Québec, mais c'est partout, là.
Et lorsque vous évoquez les différentes réalités qui sont dans les régions, évidemment, elles font toutes référence aux services de taxi.
Exact.
Faut penser qu'au Québec, avant la pandémie, il faut penser qu'avant cette pandémie-là, à ne pas oublier, il existait déjà une pénurie de la main-d'œuvre. Déjà en 2015, on la voyait se profiler, cette pénurie de main-d'œuvre. Mais évidemment, les services se donnaient quand même. Il faut penser qu'avant la pandémie, 7 des 9 millions de déplacements qui se font au Québec, qui étaient réalisés au Québec, l'étaient par l'industrie du taxi.
7 des 9 millions. Alors, on parle de presque 72-73%?
Oui, plus de 70% étaient réalisés par l'industrie du taxi. Ça, c'est un développement majeur qui avait été réalisé dans les 30 dernières années, parce que on se souvient qu'au départ, il y a 40 ans, c'était principalement par des minibus. Et évidemment, on appelait ça la ronde de l'Est. C'est une expression qui était consacrée au transport adapté et qui faisait en sorte que les personnes devaient attendre que le dernier, jusqu'au dernier, pour qu'elles puissent enfin arriver à destination. Et ce n'était pas ça. Pour nous, ce n'était pas ça le progrès. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de nos partenaires, incluant les ministres qui ont passé tour à tour, incluant les fonctionnaires, incluant les organisateurs du transport, incluant nous qui protégeons, qui défendons les utilisateurs du transport pour tout le Québec. Alors, donc, tout ça, nous l'avons construit ensemble. Et il y a eu la loi 17, en 2019, qui est tombée. En projet de loi tout d'abord, et qui abolissait les permis de transport, les permis de taxi des propriétaires de taxi.
Et c'était on va revenir en arrière, là, c'était en réaction à la venue sur le marché de Uber, là, qui a chamboulé l'industrie du taxi, qui a fallu trouver une façon de réformer tout ça, mais ça a été fait sur le dos de l'industrie du taxi.
En fait, Uber est arrivé vers 2015 de façon plus précise ou de façon plus apparente. Il agissait de façon illégale parce qu'il n'était pas détenteur d'aucune réglementation, d'aucun permis. Et finalement, donc, il prenait quand même de la place. Et c'est venu parce que nous, on a travaillé sur le cas d'Uber, si on veut, depuis 2016. Il y a eu des commissions parlementaires sur le sujet. Et on voyait venir aussi cette industrie, si on peut dire parallèle, se profiler dans différentes régions. Mais au Québec, ce qu'on avait, c'était une réglementation gouvernementale qui portait sur la sécurité, sur la qualité des services dans le transport de personnes handicapées, entre autres. Et évidemment, le projet de loi 17 est venu, en abolissant les permis de chauffeur de taxi, est venu rendre encore plus vulnérable, je dirais, l'organisation des services, parce que, évidemment, nous l'anticipions déjà, hein, cet abandon massif ou majeur des détenteurs de permis, parce qu'en abolissant les permis, on savait très bien que les chauffeurs allaient abandonner la pratique.
Et ça, c'est une situation que vous aviez déjà soulevée en commission parlementaire au moment de l'étude du projet de loi 17.
Tout à fait. Et la Commission des droits de la personne s'en est inquiétée aussi. L'OPHQ s'en est inquiétée parce que l'OPHQ, elle est responsable de la politique à part égale. Donc, ça veut dire pouvoir se déplacer comme tout autre citoyen, incluant le transport, hein, évidemment, mais à tous les niveaux. Donc, nous étions plusieurs à avoir dénoncé ce projet de loi qui allait mettre à mal c'est-à-dire l'organisation des services. Il faut penser que notre clientèle, elle requiert l'utilisation de ces services et sans ces services, elle reste chez elle.
Oui.
Alors, je veux dire, c'est
un droit. c'est pas
un
plus
droit
compliqué.
Fondamental. C'est bien de le rappeler, mais je vous dirais qu'au niveau politique, ça semble pas être ancré ce droit. L'accès à ce droit. Alors, donc, c'est là-dessus que nos travaux portent. Et évidemment, nous avons souvent l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, malheureusement, parce qu'on dirait que ça ne se rend pas, ça ne s'imprègne pas dans la conscience politique, ce droit, et évidemment son application réelle, surtout en augmentant pas la vulnérabilité des personnes dans l'accès à ce déplacement par un projet de loi qui vient, annihiler ou enfin réduire en bonne partie le principal fournisseur de services, parce que c'est de ça qu'on parle.
Parce que depuis le dépôt de la loi 17, l'abolition des permis de taxi, comme vous l'anticipiez, il y a plus de 40% des chauffeurs de taxi qui ont décidé de faire d'autres choses de leur vie.
Absolument. Et vous savez, dans plusieurs régions, c'est à 100%.
Et ces personnes qui assuraient le service de taxi et le transport adapté dans leur région étaient la seule ressource.
Absolument.
Et maintenant, on se retrouve avec des régions qui sont presque... qui ne sont pas desservis, point à la ligne.
Qui ne sont pas desservis et on voit poindre, les journaux en ont fait état dans les dernières semaines, on voit poindre aussi, il existe déjà des coupures de service dans des... Vous savez, le motif d'accès aux services de transport adaptés doit être le même que pour tout autre citoyen. Monsieur, madame, tout le monde, quand il monte dans un autobus, il n'a pas à dire « je m'en vais à tel endroit, mon nom, c'est ça, moi je m'en vais à tel endroit et après je reviendrai à telle heure ». Non. Mais c'est tout autrement pour les personnes en situation
de
handicap. Et c'est déjà une différence qu'on essaie de réduire constamment et qu'on parvenait à force de travailler en équipe avec nos différents partenaires à réduire de plus en plus.
Mais vous parlez du recul, je pense, c'est dans la région de Trois-Rivières où maintenant le service se limite uniquement à des questions de rendez-vous médicaux.
Absolument, absolument.
C'est comme si c'était la seule raison de sortir de chez soi.
Exactement. Puis, évidemment, ce mot « besoin de service » ou « besoin de déplacement », nous, on travaillait beaucoup pour qu'il soit changé pour
droit.
Tout simplement mes envies de déplacement. Qu'est-ce que je veux me déplacer comme tout le monde et je n'ai pas... Ça n'a pas à être un besoin, ça peut être un bonheur, un plaisir pour toute autre motivation que le besoin. Et ce besoin évoque toujours, ça nous amène aussi sur ce que vous disiez récemment, c'est qu'on finit par choisir pour qu'est-ce qui est encore le mieux pour la personne.
Ben, là, on rentre dans une infantilisation du sujet. Oui. Nous allons décider ce dont il ou elle a besoin. Oui. La société s'occupe de la personne parce qu'elle a un besoin. Là, c'est une question de validisme. Là. À part d'avoir des besoins, vous n'avez pas grand-chose.
Ça crée un impact de discrimination.
Exact.
Alors, mais évidemment, quand on n'a pas de transport, on ne parle même plus, on ne parle de rien d'autre. Quand on n'a pas de moyens pour se déplacer, quand on n'a pas accès à un transport qui, lui, va être accessible aux particularités des personnes, parce que c'est bien ça, le transport adapté. Sinon, les gens prendraient le transport en commun régulier, là, des autobus de ville, etc., et puis on n'en parlerait pas. Et encore là, il existe des problèmes. Sans doute que vous
il y a des problèmes de déneigement, il y a des problèmes d'accès à l'arrêt d'autobus, il y a des problèmes de montée à bord. Et ça, c'est là aussi. Mais donc, en ce moment, les conséquences qui étaient peut-être masquées par la pandémie, parce qu'il y a eu une réduction, comme dans d'autres choses, des voyages demandés ou des transports requis.
Oui.
Là, maintenant, on voit une réaccélération. Il y a 40 % de moins de chauffeurs de taxi disponibles dans le système.
Oui.
Est-ce que le gouvernement réagit à votre conférence de presse?
Absolument pas. Et aujourd'hui, ce sont les organismes de transport qui sortent à leur tour des régions et puis qui font valoir aussi le manque à gagner au niveau financier. Dans le transport collectif, par exemple, aucun sou n'a été reçu pour l'année. Et en transport adapté, c'est la moitié du financement qui a été reçu. Et encore là, ça ne bouge pas. Alors, il y a quelque chose de vraiment névralgique dans ce secteur. On annonce beaucoup de choses, on annonce des tunnels, on annonce n'importe quoi, mais finalement, on annonce des rabais sur les avions, mais notre clientèle, nous, elle va être de plus en plus clouée au sol. Et c'est ça qui est absolument inacceptable et on invite évidemment la population. Vous savez, dans nos familles, tout le monde, chez nos amis, tout le monde connaît une personne qui est en situation de handicap. Et il faut penser qu'il n'y a pas que... Vous savez, on est tous
touchés.
Je dirais, on peut être tous touchés, même personnellement. On ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Vous savez, un AVC, ça peut créer un handicap, différentes autres maladies en cours de vie, un accident d'automobile. Donc, il n'y a personne... Et chez les personnes de tous les âges, personne n'est à l'abri de cette réalité. On a tellement fait des pas de géant par des politiques gouvernementales. Vous savez, le Québec est particulier au niveau, j'oserais dire mondial, parce que souvent, les politiques sont municipales, donc ce sont des règlements municipaux, mais ici au Québec, ce sont des politiques gouvernementales qui enchassent, si on veut, ou qui encadrent l'industrie, ou qui encadrent ceux qui offrent du transport public.
Ce qui a permis qu'il y ait une amélioration partout en même temps, puis il y a une coordination, mais
absolument.
Maintenant, ce qui fait qu'il y a une détérioration puis une implosion généralisée, et ça se retourne contre le système, cette centralisation-là, quand rien n'est fait. Est-ce que d'autres actions sont prévues pour continuer de mettre une pression ou d'obtenir quelque chose?
Ben écoutez, on fait des actions constamment, au niveau du financement, au niveau... mais évidemment, ce qui est venu masquer et qui a donné raison un peu à ce projet de loi ou à cette loi qui a été adoptée un an plus tard, alors c'est aussi la pandémie qui est arrivée et qui est venue comme masquer, je dirais, la réalité de tous les jours et qu'on vivait tout le temps au niveau des demandes de transport, au niveau de l'accès au transport. Alors donc c'est venu un peu cacher tout ça. Mais là, les gens commencent à rouvrir, commencent à sortir et évidemment, donc, l'ensemble des personnes vont vouloir sortir. Et c'est là où on considère que le transport adapté va être, s'en va inexorablement vers le péril parce que évidemment, c'est absolument du sang. C'est sans précédent ce qu'on vit présentement.
On est retourné 30 ans derrière.
Absolument.
Et je dirais presque dans l'indifférence.
Ah,
En dehors
totalement.
des personnes qui sont directement touchées par ça,
Oui.
ben, madame, oui, allez-y.
Et ce sont vraiment, je dirais, pas juste des cauchemars, mais des déceptions très grandes chez la clientèle. Ce sont des renoncements. C'est vraiment très intime ce qu'elles vivent et très, très fort, vous savez.
Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Couture, de l'Alliance, directrice de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté, du Québec. C'est évidemment un dossier qu'on va suivre de très près et je vous remercie de
Merci à vous.
votre
Merci
engagement et
à
de
vous.
votre passion.
Merci à vous.